religion du monde. Geneviève Delrue.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Croire en l'un, les monothéismes à l'épreuve de la lecture des textes sacrés. C'est le thème de Religion du Monde ce dimanche, une émission spéciale enregistrée à Marseille, au Théâtre de la Criée, sur le Vieux-Port, dans le cadre des rencontres d'Averroès. Cet enregistrement fait suite à la table ronde qui s'est tenue sur ce sujet aussi vaste que complexe que l'écriture et la formation dans le temps des grands textes sacrés des monothéismes que sont la Torah, la Bible et le Coran, et ensuite la question fort sensible de leur interprétation. En effet, aujourd'hui, tous les croyants des religions monothéistes sont-ils prêts à franchir le cap, à poser un nouveau regard, un regard serein sur les textes fondateurs? C'est cette interrogation sous-jacente au grand échange qui a eu lieu avec les intervenants de la table ronde que nous retrouvons presque au complet autour de cette table et pour cette émission. Bonjour à tous, bonjour à toutes.
Bonjour.
Catel Berthelot, historienne du judaïsme de l'époque hellénistique et romain. Parmi vos publications, l'histoire des Juifs, c'est ça, publié au PUF en 2020.
Tout à fait, un livre collectif.
Un livre collectif. Guillaume Di, professeur d'islamologie à l'Université libre de Bruxelles. Vos travaux portent sur les débuts de l'islam. Vous avez co-signé en 2019 aux éditions du CERF avec Mohamed Ali Amir Mouedzi le Coran des historiens, une somme de 3000 pages rassemblant une trentaine de spécialistes sur la constitution du Coran. Et Lawardi, que les auditeurs de RFI connaissent bien, professeur de civilisation et de littérature française à l'Université de Tunis, vous vous êtes lancé dans une grande aventure éditoriale sur les premiers temps de l'islam avec cette trilogie « Les califes maudits » publiée chez Albin Michel. Mais nous ouvrons avec vous, Thierry Fabre. Vous êtes le fondateur des Rencontres d'Averroès. Vous avez choisi cette année ce thème hein, des textes sacrés, de leur interprétation. Pourquoi ?
J'ai choisi le thème des croyances et des sacrés, des formes du sacré, des formes du croire et des formes du sacré. Le déclic, ça a été la sidération produite par l'assassinat de Samuel Paty. Et beaucoup de choses qui sont sorties à ce moment-là et qui ont semblé extrêmement confuses. La raison d'être des Rencontres d'Averroès, c'est un exercice de discernement, une volonté d'essayer de comprendre en public, de créer un débat public et donc de prendre les textes sacrés au sérieux. Parce que, contrairement à ce qu'on nous a raconté, aussi bien Max Weber que Marcel Gauchet, le désenchantement du monde était considéré comme un processus irréversible, hein, la religion de la sortie de la religion, enfin toute cette histoire-là. Il se trouve que les textes sacrés, ils ont toujours une sacrée résonance. Ils sont lus et fort lus. Et parfois, ils entraînent dans des lectures délirantes ou orthodoxes, des lectures très dangereuses. Et il m'a semblé que de faire entendre des voix critiques, puisque ça s'appelle « Rencontre d'Averroès », et que la figure d'Averroès qu'on avait choisie avec Alain de Libera, qui est un philosophe avec qui j'ai inventé les Rencontres d'Averroès en 1994, c'est une pensée critique. Il m'a semblé que pour être fidèle à cet héritage-là, il fallait continuer. Et donc inviter des spécialistes des textes qui sont réunis autour de cette table pour lire ces textes, apprendre à lire ces textes autrement. Et c'est ce qu'ils ont brillamment montré à l'ouverture de ces tables rondes et j'imagine aussi dans cette émission.
Nous allons absolument écouter avec grande attention hein, vos analyses à chacun. Alors moi, j'ouvre sur le croire en l'un, l'un avec un U majuscule, c'est-à-dire le monothéisme. Grande question, pourquoi le monothéisme, pourquoi pas les polythéismes, comme c'était le cas avant? Alors je me tourne vers vous, Catel Berthelot, spécialiste du judaïsme. Pourquoi le monothéisme a-t-il été alors inventé, a-t-il été créé, est-il né?
Alors, dans l'Israël ancien, l'émergence du monothéisme est très progressive. On va dire que peut-être à l'origine, les Hébreux étaient polythéistes, comme la plupart des peuples autour d'eux. Ensuite, on passe à une phase de monolâtrie. En tout cas, c'est le témoignage de certains textes bibliques qui nous parlent du Dieu d'Israël comme un Dieu, entre guillemets, national, le Dieu d'un peuple en particulier. Israël doit vénérer ce Dieu de manière exclusive, mais il reconnaît que les autres peuples autour de lui ont des dieux, ont leur propre Dieu. Donc on n'est pas encore dans le monothéisme. Troisième phase de l'évolution, là on aborde des textes qui réellement témoignent d'une croyance monothéiste, qui disent que le Dieu d'Israël est l'unique Dieu et il n'y en a pas d'autre. Donc tous les autres, tous les dieux des nations sont des idoles, des faux-semblants, et il n'y a pas lieu du tout de leur vouer un culte. Et cette troisième phase, on la date en général de la fin du VIe siècle ou du Ve siècle avant notre ère, en lien avec deux confrontations avec deux grands empires. Dans un premier temps, la confrontation avec l'empire néo-babylonien qui va détruire Jérusalem et détruire le premier temple, ce qui va être un trauma très important dans l'histoire des Juifs. Et ça va déboucher sur une question: est-ce que notre Dieu est plus faible que les dieux babyloniens? Ou bien, et c'est là la réponse qui est inventée à ce moment-là, qui est une véritable révolution en fait conceptuelle, finalement, est-ce que notre Dieu n'est pas un Dieu au-dessus de tous ces dieux, un Dieu universel, un Dieu qui dirige en fait toute l'histoire du monde, y compris des autres nations? Et finalement, la défaite face aux Babyloniens est le résultat d'un choix de notre Dieu de nous punir pour nos infidélités, les manquements à l'alliance entre Israël et son Dieu. Et cette réponse, elle va évoluer vers l'émergence de la foi monothéiste, puisque finalement ce Dieu universel, tout-puissant, qui dirige les destinées des nations, devient le seul et devient également le créateur de toutes choses. Et là, il y a un deuxième temps d'émergence du monothéisme, face cette fois-ci à l'empire perse qui est zoroastrien, et donc dont la religion postule l'existence d'un dieu du bien, Ahura Mazda, face à un esprit mauvais qui lui incarne les ténèbres. Et là, on va voir dans certains textes de la Bible hébraïque, notamment dans le livre d'Isaïe, l'affirmation que le dieu d'Israël, lui, est le créateur de toutes choses, à la fois des ténèbres et de la lumière, du bien et du mal. Donc on voit que c'est une sorte de réponse, en fait, à ce contexte perse-zoroastrien dans lequel se trouvent les juifs à ce moment-là. Et donc finalement, on a une évolution progressive et aussi diversifiée, c'est-à-dire qu'il y a différentes manières de proclamer le Dieu 1.
Guillaume dit l'émergence du monothéisme.
Bien, si vous parlez plus spécifiquement de l'islam, c'est une question qui, dans un sens, est plus simple dans la mesure où le texte coranique apparaît au 7e siècle. À une époque où les discours monothéistes du judaïsme et du christianisme sont déjà, je dirais, bien rodés. Alors, la question de la situation religieuse de l'Arabie pré-islamique, des communautés juives chrétiennes, d'autres éventuellement restées polythéistes, est un vaste sujet. Mais ce qui est clair, c'est que le Coran, effectivement, insiste énormément sur cette question de l'unicité divine, sur le fait qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et parmi ces cibles, il y a ce que l'on appelle en arabe les mouchrikoun, que l'on traduisait souvent dans le passé par les polythéistes, en disant ben, ce sont les polythéistes mécois qui sont visés par ce terme. C'est pas si simple pour diverses raisons, y compris le fait, disons-le en passant, que ces mouchrikoun apparemment sont plutôt des agriculteurs qui ont des figuiers et des oliviers, bon, qui ne poussent pas à la Mecque. Donc ça fait une petite contradiction un peu à discuter. Mais on a tendance à dire que ce sont des associateurs aujourd'hui. C'est la traduction qui d'ailleurs suit le sens de l'arabe. Et donc de voir par là des gens qui peut-être ne seraient pas polythéistes, ou en tout cas seraient des gens dont le monothéisme n'est pas suffisamment clair ou radical ou assumé. Et le Coran va revenir régulièrement en parlant du Dieu créateur, du Dieu juge, miséricordieux, mais aussi vengeur éventuellement, sur cette question vraiment, sur la figure centrale d'un Dieu unique auquel rien ne peut être comparé, dont rien n'atteint la nature ou le niveau. Le problème que j'ai indiqué aussi, c'est quand même que ces termes de monothéisme et polythéisme sont déjà des termes modernes et récents, mais surtout l'image que l'on se fait du polythéisme et souvent de l'idolâtrie. Polythéisme, paganisme, idolâtrie, ce sont trois termes, trois inventions modernes. Les deux derniers termes sont particulièrement péjoratifs. Ces termes-là font qu'on a très souvent, en fait, aujourd'hui, une compréhension du polythéisme qui suit en fait la critique et la polémique qu'en ont fait les monothéismes, ce qui est une manière peut-être peu charitable de comprendre ces religions. Voilà pour l'essentiel. On pourrait revenir ensuite aussi sur les paradoxes du monothéisme qui sont très simples, qui est que plus vous inventez ou pensez une figure divine éloignée de vous, plus il est difficile d'entretenir des rapports avec elle. Et donc, plus vous avez besoin éventuellement ou d'entités intermédiaires, ou plus vous êtes amené, sans le vouloir, à vous représenter Dieu malgré tout en termes anthropomorphiques.
Et plus vous entrez aussi en concurrence entre les divers monothéismes.
Et ou les diverses interprétations du même Dieu, puisque effectivement, on parle des trois religions monothéistes pour parler du judaïsme, de l'islam et du christianisme. Mais même à l'intérieur de ces religions, d'ailleurs, et entre elles, évidemment, ce qu'il faut entendre par l'unicité de Dieu n'est pas la même chose. L'unicité de Dieu, comprise comme trinité dans le christianisme, n'est pas la manière, par exemple, dont l'islam va comprendre l'unicité de Dieu.
On poursuit avec vous, Ella Wardi, sur ce thème justement de l'émergence du monothéisme. Vous avez étudié, vous vous êtes même immergé, j'allais dire, dans cette ambiance de la naissance de l'islam, notamment avec la mort du prophète et puis après, bien sûr, les premiers califes. Est-ce que vous avez perçu, à travers vos lectures, un besoin, j'allais dire, de monothéisme, de cette croyance en un Dieu et de faire fi du passé, du polythéisme?
Absolument, Geneviève. Et d'ailleurs, j'avais souligné le lien qui existait entre l'émergence du monothéisme dans la péninsule arabique. Et d'ailleurs, je mettrais entre guillemets le mot émergence, puisqu'il y avait déjà dans la péninsule arabique des communautés monothéistes, communautés juives et chrétiennes. Peut-être que ce n'était pas du tout des communautés rattachées aux institutions officielles, peut-être des hérétiques chrétiens. Mais j'ai associé tout à l'heure la nécessité qu'on avait éprouvée, sans doute, je mets tout au conditionnel. Évidemment, tout cela, il faut le mettre sur le compte de l'hypothèse historique, en l'absence de documents d'époque. C'est qu'en fait, il y avait un besoin dans la péninsule arabique de créer un État. Donc il y avait vraiment besoin d'avoir une croyance religieuse qui serait le soubassement d'une autorité politique centrale. Je rappelle aux auditeurs que dans la péninsule arabique du 7e siècle, le régime était tribal, chaque tribu était souveraine, avait une domination territoriale plus ou moins limitée. Et il faut imaginer que le besoin d'unifier toutes ces tribus arabes avait déjà été manifesté avant le prophète de l'islam, à travers le projet économique de son arrière-grand-père Hashem, qui a créé une sorte de marché commun, Ilef Quraysh, en créant avec les tribus arabes un réseau d'intérêts économiques communs. Et cette opération n'a pas abouti. Et Mohammed, qui est sans doute l'héritier de ce projet, le projet de son aïeul, a compris qu'il fallait, comme pour l'Empire byzantin, le christianisme, et pour l'Empire sassanide, le zoroastrisme, il fallait que l'unité arabe, ou la création d'un État arabe unifié, devait se faire autour d'une croyance commune. Et là, il est allé chercher dans ce qui était déjà existant, en l'occurrence le christianisme et le judaïsme, en proposant, si j'ose dire, excusez la métaphore peut-être un peu triviale, en proposant quelque chose de nouveau sur le marché de la religion, en disant en fait, en gros, que là, le message qu'il vient de transmettre complète et achève les messages des monothéismes antérieurs, et en même temps, non seulement il les achève, mais il les rectifie, puisque ce sont des religions qui ont subi toutes sortes de métamorphoses, de manipulations, de falsifications. Donc pour moi, il y a évidemment, sur le niveau de la croyance, il y a une continuité, rupture avec les monothéismes précédents, mais il y a surtout, à mon avis, un contexte historique favorable, qui a favorisé la cristallisation de cette croyance dans une Arabie qui reste quand même pas forcément polythéiste ou monothéiste, mais qui respectait un peu cette diversité religieuse, ce qu'on a comme description de la Mecque, berceau de l'islam, montre qu'il y avait une cohabitation plutôt pacifique entre différentes croyances religieuses.
Donc là, ce que vous voulez dire, et là, Wardi, ce que vous voulez signifier, c'est que finalement, le politique est presque, pas antérieur, mais enfin, le politique et le religieux sont exactement sur le même plan. à la création, dès la création de l'islam.
En tout cas, il y a eu une instrumentalisation assez précoce du religieux au service des projets politiques. Comme vous l'avez rappelé tout à l'heure au début de votre question, les califes eux-mêmes ont récupéré cet héritage de Mohammed, qui l'islam devait être enterré avec lui. Hein. Ils ont récupéré cet héritage pour en faire la colonne vertébrale de l'État califal, qui était encore balbutiant. Ils ne savaient même pas ce que c'est que le califat. C'était ad hoc. C'était une institution politique ad hoc, presque inventée, bricolée dans l'urgence, où l'islam risquait carrément de disparaître. Voilà. Mais c'est vraiment important, je pense, que cette définition, ou en tout cas cette articulation, si vous voulez, entre l'émergence du monothéisme en Arabie et les projets politiques qui l'ont sous-tendu. Et je pense que d'ailleurs, très tôt, le monothéisme dans la péninsule arabique a été perçue comme une religion ethnique. C'est une religion des Arabes, destinée aux Arabes. Il ne prendra sa dimension universelle, l'islam, que bien plus tard, à travers les conquêtes.
Catel Berthelot, je me tourne vers vous. Le levier politique dans la constitution des textes joue un rôle important ou pas dans le judaïsme ?
Ah, c'est beaucoup moins net, en fait. Parce que, comme je l'ai dit, il y a un certain nombre de textes qui sont écrits donc, à la suite de la destruction de Jérusalem et du premier temple par les Babyloniens, dans un contexte d'écrasement total du pouvoir politique judéen. Et donc, ce sont des élites en exil qui rédigent ces textes, beaucoup plus que des scribes dans une cour royale ou voilà, dans un État constitué en lien avec un pouvoir politique. Donc là, on est dans un cas de figure qui me semble différent sur un plan historique. Et quand on pense à l'émergence de la littérature rabbinique par la suite, puisque ça va être le deuxième grand corpus de la tradition juive, la Mishnah, le Talmud, etc., et bien là aussi, c'est dans un contexte de non-pouvoir politique radical, puisque les rabbins vivent dans le cadre de l'Empire romain, la Judée n'existe plus en tant qu'entité territoriale et étatique,
mais c'est
indépendante.
Ce qui va faire la force du texte aussi, non ?
Oui, donc en fait, ce sont des textes qui sont plutôt rédigés dans des contextes de disparition de l'État et de faiblesse politique.
Donc des textes peut-être plus forts aussi, non ?
Alors, on peut les voir comme Heine disait, la Bible patrie portative du peuple juif.
Oui, c'est ça,
donc,
oui, exactement.
On peut les voir des jeux. Alors, est-ce que c'était délibérément construit comme tel à l'époque ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça a certainement eu cette fonction dans l'histoire des Juifs.
Vous écoutez Religion du Monde. Nos invités sont Catel Berthelot, Guillaume Di, Ella Wardi et Thierry Fabre dans le cadre des rencontres d'Averroès. Ce que j'ai retenu de cette table ronde, c'est effectivement cet empilement, j'allais dire, au fur et à mesure du temps, cet empilement des textes, de leur interprétation. Est-ce qu'il faut y voir une révolution permanente au sein des textes sacrés, ou bien est-ce qu'à un moment donné, eh bien finalement, quand ils sont canonisés, c'est fini, comme c'était le cas pour l'islam. Là, je me tourne vers vous, Guillaume Di, c'est terminé, la porte est fermée.
Alors, une fois qu'un texte est canonisé, en principe, on n'y touche plus. Maintenant, quand on étudie justement ces textes canoniques des grandes religions, donc la Bible hébraïque, le Nouveau Testament, le Coran, gardant à l'esprit que le statut de ces différents textes à l'intérieur de chacune des religions, je dirais d'un point de vue même théologique, peut être très différent, mais malgré tout, cela fait partie des textes auxquels se réfèrent les croyants. Ces textes-là, une fois qu'ils sont canonisés, ne sont plus censés bouger. Par contre, on sait très bien qu'ils ont eu un développement, une rédaction plus ou moins longue. Alors, dans le cas de certains livres bibliques, ça peut s'étaler sur plusieurs siècles. Dans le cas du corpus néo-testamentaire ou du corpus coranique, c'est une affaire plutôt de quelques décennies, on va dire.
Un siècle pour le christianisme et pour...
Oui, alors ça dépend en fait.
Il
y a plusieurs choses. Dans le cas du christianisme, il y a la question de la durée de production des textes et de leur rapport à la période fondatrice. Et puis ensuite, il y a la constitution de l'ensemble du du canon où sont rassemblés les différents textes. Dans le cas de l'islam, pour le Coran, c'est en un sens plus simple, parce qu'on n'a qu'un seul corpus, le Coran, qui rassemble 114 sourates, mais on repère en utilisant justement, en lisant ces textes avec la méthode historico-critique, des évolutions, des changements, des processus de réécriture à l'intérieur même du corpus. Donc ces principes-là ont lieu durant la période où les textes ont une certaine forme d'autorité qui fait qu'on les conserve, qu'on les réécrit, qu'on ne peut pas simplement les mettre de côté, mais où ils n'ont pas encore acquis une telle autorité sociale ce qui fait qu'il est possible encore de les modifier, de les réécrire. Une fois que le texte devient canonisé, eh bien, c'est typique dans le cas de l'islam et du Coran, on va s'attacher à détruire les versions concurrentes et à imposer une version spécifique. Rappelons que la canonisation, c'est un phénomène avant tout social et politique, c'est une question de pouvoir. Et une différence intéressante entre le développement du canon biblique ou du canon chrétien d'un côté et le développement du canon musulman de l'autre, c'est que dans le cas de l'islam, nous avons affaire à une production et dissémination qui est centralisée et sous le contrôle du pouvoir politique. Ce qui n'est pas le cas dans le développement du canon chrétien ou juif. Et ça fait une différence importante parce que cela, je dirais, a permis peut-être d'éliminer plus facilement les versions concurrentes, finalement.
Des ennemis, en fait.
Ce qui ne veut pas dire que ces versions concurrentes n'existaient pas. Simplement, oui. On a vraiment un entrelacement de considérations religieuses et politiques, parce que ce sont des thématiques qui vont naturellement ensemble. Le discours religieux et le discours, on va dire, qui a le potentiel de légitimation délégitimation le plus important. Donc évidemment, la question de la maîtrise du discours religieux, de la maîtrise de la lecture des textes sacrés est une question qui n'est pas que religieuse, qui est évidemment totalement politique.
D'où aujourd'hui la difficulté. Alors là, on passe au deuxième grand thème de cette table ronde, la question de la lecture critique, historico-critique. Alors déjà, sur le terme, il y a peut-être effectivement, une maladresse de langage. Je me suis souvent fait la réflexion. Hein. Est-ce que ce mot critique, là je pense aux musulmans, n'est pas perçu comme critiquer la religion? Est-ce qu'il n'y aurait pas eu un autre terme à trouver au lieu de dire, je ne sais pas, une lecture distanciée, une lecture historicisée? Mais le mot critique, ça passe pas, en fait. Non, il a avoir dit.
Oui, alors, c'est une très, très bonne remarque. D'abord, parce que c'est vrai que c'est très maladroit, expression
c'est hyper
historique.
Maladroit.
Parce que c'est un pléonasme. Toute lecture historique implique forcément une distanciation critique. Mais dans le monde arabe, justement, vous parlez de l'islam n'est pas spécifique au monde arabe, mais
Il est né là.
Voilà, les schémas intellectuels que nous avons associent toujours l'islam à l'arabité. Mais bon, le mot naqd, qui veut dire critique en arabe, a un tout autre sens. Alors, étymologiquement, ça désigne, ça vient de naqd, c'est-à-dire la monnaie, la pièce de monnaie. Et le naqd, le critique, c'est le numismate qui est capable de détecter la fausse monnaie. Donc, au contraire, l'action de la critique dans l'imaginaire arabe est plutôt une action plutôt salvatrice, puisqu'elle permet de distinguer le bon grain de l'ivraie. Donc, c'est une action qui n'est pas en soi condamnable. Par contre, la perception qu'on peut avoir, surtout à l'époque contemporaine, de la posture critique au sens de remise en cause ou rationalisation du rapport au religieux, je pense qu'elle peut provoquer des réactions de rejet de la part de tout croyant, quelle que soit son appartenance religieuse. Parce que le parcours scientifique a toujours quelque chose de subversif par rapport au discours religieux. Pourquoi ? C'est une opération très simple. Le critique, l'historien, pose les questions, la religion donne des réponses. Et des réponses toutes faites. Figées.
Clé en main.
Donc déjà, nous avons une attitude intellectuelle qui est complètement incompatible. Nous avons quelqu'un qui pose les questions et qui d'ailleurs très souvent diffère la réponse, parce que tout historien, tout chercheur qui se respecte n'affirme jamais avoir atteint la vérité. L'horizon de la vérité s'éloigne au fur et à mesure que nous avançons, alors que l'attitude du croyant ou de l'homme de religion, entre guillemets. Il n'y a pas d'homme de religion en islam. Et c'est un gros avantage qui est devenu par la suite un véritable handicap. Donc il donne des réponses toutes faites, absolues et définitives. Donc forcément, il y a à la base une collision dans les deux attitudes intellectuelles. Mais comme vous dites, historico-critique, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver autre chose de plus pertinent ? Moi, je pense qu'il n'y a pas seulement l'histoire dans la critique, puisque maintenant, il y a des gens qui ont un point de vue critique sur la religion, du point de vue juridique, par exemple, du point de vue également de la loi religieuse. C'est-à-dire qu'en fait, le discours qui remet en cause les fondements de la religion peut se situer à un autre niveau que la simple approche historique. Donc peut-être que chacun devrait, quand il s'attaque à un aspect de la religion, devrait spécifier l'angle qu'il a choisi. Moi, je pense que la solution dans cet engrenage qu'on a par rapport au discours religieux, c'est toujours cette attitude de prudence, les précautions qu'on prend, le fait de ne pas publier en arabe certains livres, etc., etc. Et a une explication très simple. C'est pas parce que l'islam en lui-même rejette cette attitude critique, mais parce que tout simplement il y a des réactions violentes, il y a des risques presque physique, d'avoir des représailles. Et aussi, il me semble, je finis sur cette remarque, que même quelqu'un qui va aujourd'hui faire une exposition, un peintre, un artiste, qui va faire une exposition représentant le prophète et ses compagnons, il va tout de suite être, même si ce n'est pas une caricature, même une simple représentation, il risque gros. Donc je pense que c'est vraiment injuste à l'égard de l'approche historico-critique, comme vous dites, même si je suis d'accord avec vous, on pourrait trouver mieux, de dire qu'elle porte seule la pression.
Et le poids de la recherche de la vérité, et dire la vérité, vérité d'histoire, c'est aussi un des thèmes cette année des tables rondes.
Absolument, d'Averroès. Puisque les tables rondes des rencontres d'Averroès cette année, autour de croyances et sacrées, sont croire en l'un. Oui. Et donc, dès demain matin, croire en l'histoire, puis croire en la vérité et croire en la liberté. Et en entendant effectivement la table ronde de Guillaume Di sur le rôle de l'historien, paraissait tout à fait faire le lien avec ce débat autour de croire en l'histoire. Et j'ai beaucoup aimé son paradoxe en disant, pour le vivre ensemble, l'historien, en tant qu'historien, il peut rien. Et elle écoutait en deuxième nuance, il peut beaucoup. Il peut beaucoup parce que, justement, il inscrit des textes sacrés dans le temps. Or, les textes sacrés revendiquent un absolu et un hors du temps. Et ce qui se joue dans les sociétés, en tout cas dans les sociétés démocratiques ou civiles, c'est quand elles ont un lien avec le temps et avec l'histoire. Et la temporalité, les régimes d'historicité sont des éléments extrêmement vifs et majeurs. Et je crois qu'il y a des concordances de temps à trouver. Et de ce point de vue-là, les historiens, les anthropologues du religieux ont un rôle absolument capital à jouer. Parce que sinon, si on est dans des lectures des textes religieux hors du temps, des lectures orthodoxes, j'avais beaucoup aimé la définition que proposait Amir Moazi. Qu'est-ce que c'est l'orthodoxie ? C'est l'interprétation qui interdit l'interprétation. Et donc, quelque part, ce dont on a besoin, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire la vive interprétation, la métaphore vive, comme disait Paul Ricoeur. Et donc, c'est quelque chose de cet ordre qui est à l'œuvre, et c'est un peu le sens de ces débats rencontres d'Averroès, c'est de proposer des chemins contemporains à une lecture, lecture vive, pourquoi critique vive, dans la vie, et donc dans le temps. La vie, c'est ce qui se transforme dans le temps, et donc c'est ce à quoi les historiens, les anthropologues des textes peuvent nous apporter des éclairages particulièrement nécessaires à notre temps, où on voit les passions identitaires se réaffirmer avec des visions, je dirais, absolues.
Mais précisément, avant d'écouter Katel Berthelot, Guillaume dit, qu'est-ce que vous apportez, selon vous, en tant qu'historien, à un jeune musulman aujourd'hui ? qui vit en Belgique, par exemple, le pays où vous travaillez?
Alors, ça peut être variable. Je ne poserai pas, je dirais, mon travail comme s'adressant spécifiquement à un jeune musulman ou autre, parce qu'en fait, le travail...
C'est toute une chaîne. Voilà.
Mais puis le travail de l'historien, quelque part, il s'adresse à tout le monde, justement parce qu'il est historien et qu'il ne parle pas d'une chapelle particulière ou pour une chapelle particulière. Mais pour développer ce qu'a dit Thierry et qui me paraît important, il faut à clarifier... Le propre du discours religieux, c'est d'être un discours qui se prétend justement hors du temps, absolu, universel, d'origine surhumaine. Et donc, c'est le type de prétention à la vérité qu'il a. Le propre du travail de l'historien, c'est de contextualiser, de remettre les choses dans une époque, un lieu particulier, une société particulière, de prendre en compte les intentions, les motivations, pas toujours innocentes, des gens qui produisent ces textes. Et donc, c'est vraiment de lire ces textes comme étant très contextualisés, très mondains, je dirais, et très humains. Et évidemment, le paradoxe, si je puis dire, c'est que l'historien des religions est vraiment quelqu'un qui... étudie les textes religieux en les prenant à l'inverse de ce qu'ils prétendent être eux-mêmes. Et donc évidemment, c'est le premier élément qui peut, je dirais, déstabiliser les tenants de l'approche confessante. Ensuite, là où ça devient intéressant, d'abord c'est aussi, rappelons-le tout bêtement, c'est que l'historien, de par son analyse des sources, le mot critique vient ici d'analyse critique au sens de séparer ce qui, dans les documents et les sources que nous avons, est plausible et tenable et ce qui relève d'autre chose. L'historien, il éclaire aussi le sens du texte d'une manière originale qui n'est pas forcément une manière accessible à la vision qu'auront les croyants lambda ou même parfois les théologiens. Donc il apporte des éléments d'intelligibilité au texte. Et puis aussi, et c'est un point très important dans le travail de l'historien, outre la distance qu'il a par rapport à ces textes, c'est le fait qu'il traite tous les textes de la même manière. Il traite les textes sacrés et les textes profanes de la même manière, parce qu'il traite tous les textes comme des fabrications humaines, quelles que soient les prétentions que ces textes ont. Et il traite également, s'il fait bien son travail, les textes de différentes traditions religieuses sur un pied d'égalité. Et de ce point de vue-là, c'est quelque chose qui amène une distanciation possible très utile. Pour un non-croyant, bien sûr, qui comprend l'intérêt de ces textes par ailleurs, pour des croyants aussi, parce que ça peut les amener à comprendre leurs propres textes, mais également les textes d'autres traditions religieuses, d'une manière différente. Et le travail intellectuel, finalement, presque le travail sur soi qu'implique ce type de lecture, c'est évidemment quelque chose qui éloigne des réponses trop faciles et des réponses absolues qui sont données, qui éloignent du prêt-à-penser, dont quelque part parler aussi et l'avoir dit tout à l'heure.
Votre réaction, Thierry Fabre?
Les textes sacrés ne sont pas que des textes religieux ou monothéistes. Et moi, ce qui me frappe, c'est ce que Raymond Aron appelait les religions séculières. Et Dieu sait si... la violence politique de l'interprétation, je pense, moi qui suis très camusien, Camus a sorti L'homme révolté, et d'être critique de l'historicisme communiste, combien ça a soulevé de tempêtes, et parce qu'il avait soudain mis les pieds dans le sacré de textes qui étaient considérés dans le manifeste du Parti communiste ou des choses comme ça. Et donc, je crois qu'il faut aussi avoir dans cette... pensée critique, dans cette réflexion sur les formes de croyance et de sacré, penser à ces religions séculières et à ce qu'elles sont devenues, et où il a fallu en sortir, et ça a supposé quelques courage intellectuel pour s'y affronter.
Religion du monde. Geneviève Delrue.
Catel Berthelot, je me tourne vers vous. Il y a des événements qui peuvent aussi changer, j'allais presque dire, le cours de l'histoire, ou en tous les cas, le travail de l'historien. Là, je pense à la découverte des manuscrits de Qumran en 1947. Là, ça a été un bouleversement, donc ça doit changer un peu le logiciel que l'on a à ce moment-là, non ?
Oui, c'est une découverte qu'on peut rattacher justement à cette question de l'approche historico-critique des textes bibliques. Mais avant de développer ce point, je voudrais quand même revenir un peu en arrière et faire une remarque sur
On vous écoute. Allez-y.
Sur les rabbins du Talmud.
Oui.
qui n'étaient pas du tout historiens. Mais pas du tout, du tout. Ça ne les intéresse absolument pas. Au contraire, d'une certaine manière, tout pour eux communique dans la Bible et dans la tradition rabbinique. Un rabbin du IIe siècle peut parler avec Moïse. Enfin bref, la question de la chronologie ne les intéresse absolument pas. Ni des circonstances d'émergence et de rédaction des textes. Pour autant, ces rabbins du Talmud, qu'on peut qualifier d'hommes de religion, n'ont aucune réponse toute faite. Et je pense que c'est important de le dire. Ils sont toujours pleins de questions.
La question permanente.
Ils questionnent le texte. Et en fait, ils cherchent toujours à approfondir, à aller plus loin et à remettre en question les interprétations proposées par leurs collègues. Et les réponses même, en fait, j'irais même jusqu'à dire que les réponses ne les intéressent pas tant que ça.
C'est la question qui est
parce
intéressante.
Qu'on voit, oui, enfin, quand on lit une page de Talmud, on est très, très dérouté en tant qu'occidental parce que c'est un mode de pensée associatif où finalement, on va passer d'un sujet à un autre. Et au bout de trois pages, on se rend compte qu'on n'a toujours pas répondu à la première question qui était trois pages avant. Et donc, ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'on peut ne pas être dans une démarche historico-critique, mais néanmoins être dans un questionnement permanent du texte. Et je pense que c'est quand même important de le rappeler que le questionnement n'est pas que l'apanage des historiens. Il ne faudrait pas nous poser en norme absolue de la pensée, disons, critique ou de la pensée qui questionne les textes et qui cherche à comprendre plus loin. En fait, pour les rabbins, l'important, c'est d'étudier, c'est d'être dans cette étude infinie. C'est ça qui est important. Alors, je reviens maintenant à la question de l'approche historico-critique de la Bible, qui néanmoins nous intéresse. Et à la découverte de Qumran, qui est effectivement fondamentale. Donc, on va découvrir dans 11 grottes presque 1000 manuscrits, dont 200 manuscrits bibliques. Quand je dis manuscrits bibliques, en fait, le canon n'est pas encore véritablement clos à cette époque-là. Donc, c'est presque un anachronisme de parler de manuscrits bibliques à Qumran, hein, puisque qui dit Bible dit canon. Ce que je veux dire par là, c'est 200 manuscrits de textes qui, plus tard, sont connus comme étant les textes de la Bible hébraïque. Donc, dans ces manuscrits, il y a un certain nombre de variantes. Alors, c'est ça qui est très intéressant pour l'historien qui s'intéresse à l'histoire de la rédaction de la Bible. Donc, la Bible, effectivement, elle n'a pas été écrite en une seule fois. Et c'est un processus très long. Et là, dans ces manuscrits qui datent entre le 3e siècle avant et le 1er siècle après, eh bien, on voit qu'on est à la fin du processus rédactionnel. Il y a encore des variantes d'un manuscrit à l'autre. Et parfois, ça change le sens théologique des textes. Alors, ce n'est pas le cas de figure le plus fréquent. La plupart des variantes sont relativement insignifiantes du point de vue du sens du texte. Mais il y a quand même quelques cas, notamment un verset du Deutéronome au chapitre 32, où le texte dit que Dieu a réparti les territoires des peuples en fonction du nombre des fils d'Israël. Ça, c'est la version du texte massorétique médiéval. Dieu a réparti les territoires des peuples en fonction du nombre des fils d'Israël. Quand on regarde le manuscrit de Qumran, ce n'est pas ce texte-là, mais Dieu a réparti les territoires des peuples en fonction du nombre des fils de Dieu. Ce qui nous renvoie à une notion nettement plus polythéiste, entre guillemets. Et donc, on est là face justement à ces vestiges de polythéisme dans des textes bibliques qui vont être gommés dans une édition postérieure de la Bible pour la rendre plus normative, on va dire. Donc, ça a été une découverte majeure, voilà, pour éclairer un certain nombre de processus rédactionnels. Et ça nous montre aussi, à nouveau, que le monothéisme, eh ben, ça ne s'impose pas du premier coup.
Et également, ça a été aussi pas une découverte, mais en tous les cas, on peut dire ça comme ça, des Esséniens. On a mieux connu les Esséniens et on a même dit que Jésus aurait pu, effectivement, être un Essénien. Alors, bon, que croire ?
Alors, les Esséniens, c'est un groupe juif connu par des textes en grec et en latin,
oui, hein,
avant même la découverte de Qumran. Et effectivement, Ernest Renan avait rapproché Jésus et en tout cas les premiers chrétiens des Esséniens. Et il a été suivi par bien d'autres jusqu'à aujourd'hui, y compris récemment par l'ancien pape Benoît XVI. Donc ça reste effectivement quelque chose qu'on lit, que Jésus était proche des Esséniens, peut-être même qu'il avait été initié parmi les Esséniens. Puisque Qumran est très proche, en fait, du lieu supposé du baptême de Jésus au Jourdain. Bref, en tout cas, les textes de Qumran, effectivement, ont été attribués en partie à des Esséniens à cause des rapprochements entre le mode d'organisation des communautés décrites dans ces textes et ce que les auteurs, comme Flavius Joseph, écrivain juif du 1er siècle, nous en disent, eux, en grec, indépendamment. des textes de Qumran. Donc quand on compare en fait cette description extérieure faite par Flavius Joseph et le témoignage des textes de Qumran eux-mêmes, les parallèles sont tellement flagrants qu'il serait quand même peu probable qu'il y ait eu deux groupes juifs tellement similaires à la même époque dans un assez petit territoire. Donc on peut conclure qu'effectivement une partie des rouleaux de Qumran a été rédigée par des Esséniens. Et alors ce qu'on voit, c'est que c'est quand même un groupe juif extrêmement rigoriste, extrêmement pieux, qui applique la loi d'une manière qu'on qualifierait, nous, de nos jours, de fondamentaliste et extrémiste. Et du coup, quand on place la figure de Jésus à côté, et quand on voit les passages des évangiles qui nous décrivent un Jésus relativement laxiste dans l'application des commandements, je ne dis pas qu'il ne les met pas en pratique, mais en tout cas, il les interprète dans un sens assez souple, notamment le commandement du Shabbat. Hein, on lui reproche de faire des guérisons le jour du Shabbat, etc. Et par contraste, on voit bien qu'à Qumran, il n'en était absolument pas question. Donc, il est quand même difficile d'imaginer que Jésus ait pu venir d'un... même pu traverser un milieu essénien. Parce qu'en tout cas, tout ce que nous connaissons, hein, par les évangiles, on n'a pas d'autres sources, de son enseignement et de sa pratique, est quand même assez à l'opposé, en fait, des enseignements des Esséniens.
Et est-ce qu'il y a eu des découvertes dans l'islam qui ont pu bouleverser, effectivement, la compréhension de la naissance de l'islam? On parle du Coran des pierres, par exemple, des inscriptions, c'est ça qui sont sur des pierres. Est-ce qu'elles ont pu indiquer quelque chose? Je me tourne vers vous, Guillaume Di, après l'avoir
oui,
dit.
Oui, alors l'équivalent, mais c'est peut-être moins,
moins
radical
net,
que Qumran, mais quand même, l'équivalent pour l'islam, ce serait la découverte des manuscrits de Sana, au Yémen. Notamment d'un palimpseste, donc un manuscrit qui a été sur lequel on a écrit, puis qu'on a un parchemin, puis qu'on a gratté pour écrire une couche supérieure. Ce qui est vrai, c'est que depuis quelques décennies, il y a eu des progrès considérables dans l'archéologie, l'épigraphie, donc l'étude des inscriptions, la numismatique, l'étude des pièces de monnaie, et la papyrologie, pour une partie de l'Arabie et du Proche-Orient de la fin de l'Antiquité, ce qui nous donne vraiment une documentation matérielle tout à fait considérable. Bah, le seul hic, c'est que la Mecque et Médine n'ont pas été fouillées et ne risquent pas de l'être avant longtemps. Donc l'une des régions sur lesquelles nous sommes le moins bien informés, objectivement, c'est précisément celle-là. C'est vraiment la Mecque et Médine qui sont des villes sacrées dans lesquelles il est hors de question de faire des fouilles aujourd'hui. En revanche, on a découvert des centaines de milliers d'inscriptions de différentes dates, et pas uniquement des débuts de l'islam, évidemment, mais des centaines de milliers d'inscriptions dans la péninsule arabique ou en Jordanie. Donc on a un corpus épigraphique qui est tout à fait important. Alors, quels éléments ça donne? C'est toujours compliqué à expliquer, mais ça permet quand même de se fonder sur des textes qui ont été produits, pas toujours datables, mais qui ont été produits à une certaine époque, qui n'ont donc pas subi les transformations et les évolutions de la transmission orale, par exemple. Donc, ça fait partie aujourd'hui des sources que les historiens utilisent le plus pour écrire l'histoire des débuts de l'islam.
Et la Wardi?
En fait, c'est vrai que, comme l'a rappelé Guillaume Di tout à l'heure, il est impossible, interdit de faire des fouilles archéologiques dans les deux villes qui ont vu naître l'islam, la Mecque et Médine. Mais je pense qu'il faut faire son deuil. On ne trouvera, quand bien même, on autoriserait des fouilles, on ne trouverait rien. Parce qu'avec les grands chantiers qui ont été réalisés dans ces deux villes, notamment pour l'accueil du grand nombre de pèlerins, on a dû creuser des fondations bien en profondeur. Et je pense que déjà à une époque donnée, surtout autour des années 30 du XXe siècle, quand la famille des Saoud a pris le pouvoir avec la complicité du Vatican wahhabite qui interdit évidemment toute forme d'idolâtrie, parce que même la tombe du prophète a failli être démolie. Les wahhabites pensent que l'existence même d'une tombe est un relan du paganisme. Quand on se rend pour se recueillir devant une tombe, c'est une manière d'adorer cette tombe. Donc c'est vraiment, nous sommes dans un islam très rigoriste. Donc il y a eu une destruction méthodique, systématique de beaucoup, beaucoup de monuments. à la Mecque et à Médine. Et en plus, même plus tard, quand on a fait récemment, grâce à la famille Ben Laden, d'ailleurs c'est très curieux, les grands chantiers d'infrastructures, d'agrandissement à la Mecque et Médine, je pense que même s'ils ont trouvé des choses, ça a complètement disparu. Il reste trois vestiges du passé, trois tombes en fait, que les Wahhabites n'ont pas pu détruire pour cause, parce qu'il s'agit de la tombe du prophète et de ses deux premiers successeurs. Alors, est-ce qu'un jour on oserait ouvrir ces trois tombes ? Ça m'étonne beaucoup. On n'a pas osé encore ouvrir la tombe de Napoléon, donc...
Encore moins celle du prophète. Dernière question, et l'avoir dit, je vous la pose. Quel est l'avenir, si je puis dire, de cette discipline, hein, la critique historico-critique pour l'islam? Est-ce que, bon, on parle de chercheurs, ils sont isolés souvent quand ils sont dans leur pays, ou ils sont en Europe ou en Amérique du Nord, mais quel est l'avenir de cette discipline?
Alors, en fait, les grandes mutations sont toujours très lentes, hein, donc ce travail-là est un travail de fourmi, un travail très patient. Moi, je suis très confiante en l'avenir de la recherche, parce que de plus en plus, cette discipline avance, surtout que maintenant, les moyens de communication, les moyens techniques que nous avons à notre disposition nous aident beaucoup. Honnêtement, je parle vraiment, mais en toute modestie, de mon expérience personnelle, la numérisation du corpus de la tradition musulmane m'a fait gagner au moins 30 ans de travail. Il y a les moyens modernes, déjà de communication avec les chercheurs entre eux, la rapidité avec laquelle l'information circule. Je pense que c'est un catalyseur qui va donner une grosse impulsion.
Oui, mais est-ce que le musulman, j'allais dire de base, est prêt à recevoir ces nouvelles informations?
Il ne va pas écouter Guillaume Di, il va écouter l'imam de son quartier.
Oui.
Ça, c'est sûr. Honnêtement, il faut être réaliste.
Oui.
Simplement, et là je pense que c'est un véritable défi auquel les chercheurs sont affrontés, c'est vraiment tout en restant dans cette exigence de la rigueur scientifique, de l'érudition. Il faudrait peut-être renouveler le discours scientifique de manière à le rendre accessible et que le savoir quitte la forteresse académique. Il faut inventer quelque chose de nouveau, ne pas hésiter à aller vers le public, participer à ces manifestations, heureusement qu'elles existent, comme les rencontres d'Averroès. Il y a vraiment une énergie incroyable qui nous a été communiquée dans la salle tout à l'heure. Et je peux vous dire que ça...
Qui était pleine, hein, qui était pleine.
C'est une énergie vraiment dopante. Donc voilà, il y a de l'espoir.
Ça vous encourage. Eh bien, bon, la conclusion est toute trouvée, Thierry Fabre.
Lieu de parole dans la cité, avec une capacité, c'est ce qu'on peut faire à partir de Marseille, cette ville qui est connectée avec le monde méditerranéen, avec le monde chrétien, avec le monde musulman, mais aussi avec le monde juif. On dit peu souvent que Marseille est la troisième ville juive la plus importante d'Europe après Paris et Londres, et donc c'est pas tout à fait négligeable d'avoir aussi ce prisme-là et de ce questionnement-là à partir de Marseille.
Merci Thierry Fabre, merci Ella Wardi, merci Katel Berthelot, merci Guillaume Di d'avoir été nos invités. C'est la fin de Religion du Monde. Geneviève Delrue, Victor Hull vous donnent rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.